Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
En Suisse, les musées s'interrogent sur la restitution des œuvres d'art pillées pendant la colonisation. À Ankara, un espoir de paix renaît entre Kurdes et Turcs. Et en Italie, la chanteuse Maria Mazzotta revisite la tarentelle. Voilà l'essentiel du programme aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. La Turquie s'apprête-t-elle à tourner la page de 40 ans de guerre contre le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan ? Le président Recep Tayyip Erdogan, mais surtout son allié ultranationaliste du MHP, ont initié il y a 4 mois un processus de négociation, dont le but est d'amener le PKK à désarmer et à s'autodissoudre. Abdullah Öcalan, le chef emprisonné du PKK, pourrait appeler son organisation à abandonner les armes dans quelques jours. Le 15 février marque en effet le 26e anniversaire de son arrestation. Et il règne en Turquie et dans la région un climat fébrile, fait d'attente et d'incertitude. L'espoir est-il possible et à quelles conditions? C'est un reportage d'Anand Lauer.
Tout a commencé de manière non seulement inattendue, mais aussi assez stupéfiante. Le 22 octobre dernier, Devlet Bahçeli, dirigeant du Parti d'Action Nationaliste, le MHP, allié indispensable du président Erdogan, prononce ces mots au Parlement turc.
Si le chef terroriste annonce de façon unilatérale la fin du terrorisme et la dissolution de son organisation, et si l'isolement du chef terroriste est levé, alors qu'il vienne s'exprimer au Parlement, devant le groupe du parti DEM, qu'il vienne y crier la fin totale du terrorisme et la disparition de son organisation.
Celui qui parle dirige depuis presque 30 ans le principal parti de l'extrême droite nationaliste turque. Un nationalisme agressif, obsédé par la défense d'une identité nationale définie comme ethniquement turque, farouchement opposé à toutes les revendications du mouvement politique kurde, partisan depuis toujours d'une guerre totale contre le PKK. C'est pourtant Devlet Bahçeli, le chef de ce parti, qui présente là un deal à Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK. Il lui propose d'enterrer le groupe armé kurde en échange de la levée de son propre isolement, puisque Öcalan est enfermé depuis un quart de siècle sur une île prison. Et il lui propose de venir le faire dans l'enceinte du Parlement turc, devant les députés du DEM, le parti pro-kurde légal. Dans la suite du discours, il laisse même entrevoir une forme de libération au chef terroriste. 4 mois après ce discours, Abdullah Öcalan s'apprêterait bel et bien à lancer cet appel. Selon Roj Girasun, directeur de l'Institut Ravest, spécialisé dans la question kurde, le fait que Devlet Bahçeli soit à l'initiative et ses motivations probables distingue ce processus de tous les précédents et augmente ses chances de succès.
Les développements régionaux violents qui ont commencé à Gaza le 7 octobre 2023 et se sont propagés à toute la région, y compris à l'Iran, inquiètent beaucoup les milieux nationalistes et sécuritaires en Turquie. Leur intention est de régler le problème kurde en Turquie avant que celui-ci ne prenne aussi des proportions régionales. Ce serait une erreur de lire derrière ce nouveau processus une volonté de démocratisation, de résolution démocratique de la question kurde. Les motivations sont focalisées sur des préoccupations sécuritaires et unitaires.
Que se passera-t-il lorsqu'Abdullah Öcalan aura prononcé son appel ? Öztürk Türkdoğan est vice-président du parti pro-kurde DEM. Il est clair sur ce point. Il ne faut pas s'attendre à ce que le PKK abandonne les armes tout de suite. La balle sera d'abord dans le camp des autorités turques, donc de Recep Tayyip Erdogan.
Est-ce que faire appel, c'est résoudre le problème? Absolument pas. L'appel n'est qu'une première étape. Pour que cet appel puisse être appliqué, il faut absolument que les conditions de travail de M. Öcalan s'améliorent. Lors de la précédente tentative en 2013, cela n'avait pas été fait. Et c'est ce qui avait fait dérailler le processus. Des conditions de travail libres, c'est la condition sine qua non avancée par le PKK et toutes les composantes du mouvement kurde, légal ou illégal, pour se conformer à l'appel de M. Öcalan.
Ce que ce responsable politique entend par conditions de travail libre est très concret. Qu'Abdullah Öcalan puisse entrer en contact sans délai avec qui il le souhaite, à commencer par les chefs militaires du PKK basés en Irak du Nord, qu'il puisse recevoir en prison ceux qu'il veut recevoir et ceux qui souhaitent être reçus, avocats, journalistes, responsables politiques, membres de la société civile. Les autorités turques laisseront-elles faire? Et même si tel est le cas, même si le PKK renonce aux armes, les citoyens kurdes de Turquie peuvent-ils espérer davantage que la fin des combats, ce qui serait déjà énorme? alors que pas une fois le pouvoir n'a parlé de démocratisation, seulement de la fin du terrorisme, quid des demandes de libération des prisonniers politiques, d'éducation en langue maternelle kurde, de révision des lois antiterroristes. Selon Sturturdoğan, si un climat de paix s'installe, le pouvoir n'aura d'autre choix que de faire des concessions.
Pour justifier son autoritarisme, quel prétexte ce pouvoir a-t-il toujours utilisé ? Le terrorisme. Si les armes se taisent, le pouvoir n'aura plus cette excuse du terrorisme. À partir du moment où cette question sera débarrassée du poids des armes, le pouvoir devra entreprendre des réformes constitutionnelles. Alors oui, il y a un risque, celui que le pouvoir n'utilise pas cette opportunité pour s'engager dans la voie de la démocratisation, qu'il considère qu'il n'y a plus rien à discuter puisqu'il a obtenu ce qu'il voulait, l'abandon des armes. Mais à ce moment-là, il se retrouverait face à une résistance beaucoup plus forte. Car comme nous l'avons toujours dit, le PKK n'est pas la cause, mais la conséquence.
L'expérience des échecs passés et toutes ces incertitudes, auxquelles il faut ajouter celles qui concernent le sort des forces kurdes de Syrie, émanation du PKK, que la Turquie menace d'attaquer si elle refuse de désarmer elle aussi, poussent les Kurdes de Turquie à l'inquiétude et à la prudence, selon Roj Girasun de l'Institut de sondage Ravest. Des inquiétudes qui n'empêchent pas chez eux l'espoir et un soutien très clair à ces efforts de paix.
Au Royaume-Uni, le parti d'extrême droite Reform UK est arrivé en tête des intentions de vote pour la première fois depuis les dernières élections. Un point devant les travaillistes au pouvoir et 4 points devant les conservateurs, selon un sondage YouGov du 3 février. Le parti Tory, laminé aux législatives de l'an dernier, peine à se refaire une santé. Cela fait 100 jours que Kemi Badenoch en a pris la direction. Grande admiratrice de Margaret Thatcher, Kemi Badenoch est la 4e femme à diriger la droite, la première issue des minorités. Mais surtout, elle a du mal à convaincre. Son portrait avec Marie Billon.
Kemi Badenoch aurait dit au journal The Guardian que sa couleur de peau ne devait pas être plus importante que celle de ses cheveux. Mais en répétant que ses origines nigérianes ne doivent pas avoir d'importance, elle les met de facto en lumière. Elle a aussi dit « Je suis le pire cauchemar du parti travailliste, ils ne peuvent pas dire que je suis raciste ». Kemi Badenoch est née à Londres en 1980 avant que Margaret Thatcher ne réforme le droit du sol. Ainsi, même si elle a grandi au Nigeria, elle a pu revenir au Royaume-Uni à 16 ans sans encombre. Pourtant, sa première et sa seule annonce politique jusqu'ici en tant que chef de l'opposition, elle a été élue à l'automne 2024, a été sur l'immigration. Durcir les conditions pour obtenir la résidence permanente et puis la nationalité. Rien sur l'économie affaiblie du pays, rien sur les relations internationales, avec le retour de Donald Trump, à part dire que le président américain sera une force pour le bien dans le monde. L'objectif de Kemi Badenoch est de faire barrage à Nigel Farage, leader du parti d'extrême droite, quitte à radicaliser les Tories. Et elle occupe l'espace médiatique avec des phrases choc contre le congé maternité, par exemple, qu'elle estime trop généreux. Et surtout, elle a prononcé le mot tabou, Brexit. En janvier, elle a admis que les conservateurs avaient fait le Brexit sans stratégie pour la croissance économique. Les Britanniques ne sont pas convaincu pour l'instant par Kemi Badenoch. Selon un sondage récent, seulement 25% estiment qu'elle est une bonne chef des conservateurs et au sein même de son parti, seul un peu plus de la moitié pense qu'elle a l'étoffe d'une première ministre.
Le débat sur la restitution des œuvres pillées pendant la colonisation continue à travers l'Europe. En Suisse, depuis 2023, 7 musées, principalement dans le canton de Bâle, à l'avant-garde sur le sujet, s'interrogent sur la provenance de leurs collections en vue de restituer certaines œuvres. Propriétaire d'une 20aine de bronzes du royaume du Bénin, le musée des cultures de Bâle partage son questionnement avec le public au travers d'une exposition atypique intitulée « Sous les yeux de tous, Bénin-Nigeria ». C'est un reportage de Viloen Munoz-Boileau.
C'est une exposition qui surprend tant par sa forme que par son contenu. Dès l'entrée, l'inscription « Venez discuter » accroche le regard du visiteur et incite à interpeller l'équipe de spécialistes du musée comme Ursula Reger, conservatrice du département Afrique.
Sie dürfen näher treten. Genau. Sie dürfen näher treten.
Elle invite les visiteurs à se rapprocher du centre de la salle, leur tend des gants et les incite à prendre en main les objets posés sur les tables. L'objectif est d'amener le visiteur à ne plus être un simple spectateur face à une œuvre d'art, mais à s'interroger, comme le conservateur, sur la signification première de ces objets et leur parcours. À commencer par les deux œuvres emblématiques de l'importante collection de bronze béninois du musée.
Cette date représente deux hauts dignitaires du royaume du Bénin, situés dans l'actuel Nigeria. Elle date du XVIe siècle. Tous les objets présentés ici ont été pillés dans le palais du royaume lors de l'attaque militaire des colons britanniques en 1897. Ils ont été ramenés à Londres comme butin de guerre, puis vendus par un marchand d'antiquités à des musées. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ici, au musée des cultures de Bâle, dès 1899.
Sur un des murs de la salle, une frise retrace l'historique des recherches autour de la provenance des œuvres issues de la période coloniale. Car si la Suisse n'a pas eu de colonie, ces musées regorgent d'objets que diplomates, explorateurs, scientifiques, soldats ou mercenaires ont emportés dans leurs valises à cette époque. Mais les recherches sur leur provenance n'ont été entreprises que récemment par les musées suisses, sous l'impulsion notamment de la France, selon la directrice du musée Anna Schmidt.
Comme la Suisse n'a pas eu de colonie, il ne nous semblait pas utile de faire ce travail. Ça a changé avec le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017.
Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain. En Afrique.
En 2020, soit 3 ans après ce discours du président français, la Suisse débloquait des fonds. 8 musées helvètes ont ainsi pu créer l'initiative Bénin Suisse et entamer des recherches sur la provenance de leur collection, comme l'explique Ursula Reger.
Deux conservatrices ont débuté un travail méticuleux, épluché des milliers d'archives. Elles se sont rendues à Paris, Londres, Hambourg, Benin City. Elles ont réalisé des entretiens avec des membres de la communauté issue du royaume du Bénin, avec des artisans nigérians. Elles ont ainsi retrouvé la trace en Suisse de 96 objets du royaume du Bénin, dont 53 sont au musée de Bâle.
Mais l'exposition ne se contente pas de retracer le parcours de ces objets.
Une grosse partie est consacrée au travail de coopération avec le Nigeria et au dialogue avec les différentes parties prenantes.
Certains de ces échanges ont été filmés et sont projetés avec sous-titres sur un des murs de la salle d'exposition. Ils ont notamment permis de mieux comprendre la signification originale des bronzes béninois, comme l'explique l'ethnologue suisso-nigériane Zainabou Diallo.
Nous avons reçu des héritiers de la communauté du royaume du Bénin et ils ont clairement identifié ces objets comme des pièces sacrées qui ornaient les autels de leurs ancêtres. Ce genre d'explication nous amène à penser qu'ils devraient retourner à leur emplacement d'origine.
Mais comment procéder et faut-il tout restituer ? À travers des conférences organisées une fois par mois dans la salle d'exposition de la collection béninoise, le musée des cultures de Bâle invite le public à se poser la question, comme explique la directrice du musée, Anna Schmidt.
L'idée de ce projet, c'est de réfléchir ensemble à ce à quoi on pourrait aboutir. Et les possibilités sont nombreuses. Par exemple, on a eu le cas d'œuvres qui ont été rendues au Sri Lanka suite à une demande de restitution. Mais on a aussi eu le cas de la collection Ivaoa, dont la Polynésie française n'a pas réclamé la restitution, mais a demandé de pouvoir nous l'emprunter, car ils ne se sentent pas capables de la prendre en charge pour le moment. Donc il s'agit de rester ouvert à toutes les solutions qui peuvent permettre la circulation des œuvres. Les musées suisses sont dans un processus qui consiste à passer du rôle de gatekeeper, gardien des œuvres, à celui de caretaker, protecteur des œuvres.
Une position qui fait débat parmi les visiteurs comme Jakub Steidle et Léa Fogler.
C'est important qu'on en parle enfin publiquement. Je pense qu'on devrait non seulement restituer ces œuvres, mais aussi transmettre les droits de propriété au pays d'origine. Pour pas qu'on puisse continuer à revendiquer quoi que ce soit ou dire « faites attention, faites ça comme ci ou pas comme ça ».
Je trouve ça important qu'on demande à toutes les personnes ayant un lien avec ces œuvres ce qu'elles veulent. Peut-être qu'elles veulent la restitution, peut-être pas. Ça peut être le point de départ de nouvelles relations.
Pour le moment, le musée des cultures de Bâle n'a pas reçu de demande officielle de restitution des bronzes béninois. L'exposition « Sous les yeux de tous, Bénin, Nigeria » est visible à Bâle jusqu'au 7 mai 2025. Music.
Musique.
Et la musique, c'est avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Cette semaine, vous êtes venu avec un titre qui donne un coup de jeune à une tradition du sud de l'Europe.
Depuis la sortie de son album Amore Amaro en 2020, la chanteuse italienne Maria Mazzotta a donné beaucoup de concerts en Europe. Elle a aussi collaboré avec deux groupes français, Crimi et Pulcinella. Et c'est à la lumière de ce parcours et de ses conversations avec les musiques folkloriques méditerranéennes que Maria Mazzotta revient aujourd'hui avec un nouveau disque, Ande, enregistré en trio et traversé par le thème de la mer. La chanteuse, originaire de la région de Lecce, au sud de l'Italie, y confronte le rock et les musiques traditionnelles comme la tarenta de Salento ou le blues d'Afrique du Nord, l'électricité de la guitare, la sécheresse des percussions et la puissance vocale de la chanteuse donnent à l'ensemble un magnétisme impressionnant.
Ci pareva soli la bianca mano, mai ci pareva tre giorni in trecinai, altri giorni in trecinai. Rosa poneva capello per capello, na funda nascetta se ci arriva zecca bella. Sta fondana, se ci arriva zecca bella, mai sta fondana, ti la vuoi baciare come ti così e pazziamo fai. Dai fiori lì c'ho i locchi dove manda fiorella, cattire non ci può, nana, cattire non ci può, quante belle fiori da filare.
Ancona per cantare sta giovane buona, da Dorene da Ancona per cantare sta giovane buona, da Ancona e da Barletta per cantare sta giovane.
Tessana la Tarentelle revisitée par Maria Mazzotta, c'était la chronique musique de Vincent Théval. À la réalisation Théo Raison, retrouvez l'émission et toute l'actu européenne sur l'appli Pure Radio de RFI. À demain.